Bien que bonjour à toutes et à tous. Donc le sujet qui vous est présenté concerne le déplafonnement, enfin je l'ai intitulé « Déplafonnement des rendements grâce aux cultures intermédiaires », donc travail réalisé par le service agronomique, comme l'a dit Philippe, de la coopérative Vivesia. Avant d'évoquer ce thème, juste quelques mots sur la structure Vivesia. Donc Vivesia, ça a été évoqué tout à l'heure, est un groupe agri-industriel né de la fusion des coopératives Champagne Céréales et Nourricia. Donc comme vous le voyez sur la présentation, le positionnement est dans le nord-est de la France. Vivesia sont aujourd'hui 12 000 agriculteurs sociétaires, 2 500 clients agriculteurs, 8 000 clients viticulteurs et aussi 8 000 collaborateurs soit dans la coopérative, les métiers de l'agriculture et la transformation. Alors, Vivesia est l'acteur de régional de référence, je ne vous en parle pas beaucoup, hein, quelques mots quand même, est l'acteur régional de référence sur son territoire avec 45% de parts de marché collecte, 1 million d'hectares cultivés, 4 millions de tonnes de céréales collectées sur 240 silos, 6% des tonnages français et surtout 20% de l'orge de brasserie. Vivesia est également acteur important de la production de semences certifiées avec 20% du marché national. Et la coopérative est aussi très impliquée sur son territoire dans la nutrition animale. Au-delà de ça, Vivesia est impliqué également très présent dans les métiers de la transformation. Meunerie, bien sûr, malterie, amidonnerie, glucoserie, maïserie, nutrition animale, mais aussi bioénergie, cosmétique, recherche et innovation en agriculture dans le domaine alimentaire et non alimentaire. La vision de Vivesia est de créer et produire des solutions agri-industrielles durables, répondant aux attentes des clients et de la société, et sa mission est de générer plus de valeur et de meilleurs revenus pour les agriculteurs, tout en maximisant le retour de leur investissement. Alors après ces quelques mots sur la structure, nous venons maintenant au sujet de l'après-midi. Alors, quelques éléments de contexte par rapport à ce thème. L'implantation de cultures intermédiaires pièges à nitrate, vous le savez, est obligatoire dans le cadre de la directive nitrate, en zone vulnérable, et le taux couverture des sols avant culture de printemps est élevé, pouvant atteindre parfois 100%. Cette obligation réglementaire est souvent vécue comme une contrainte par les agriculteurs, même si, on le sait, les couverts présentent de nombreux atouts agronomiques, économiques et environnementaux. Ainsi, durant ces dernières années, le service agronomique de Vivesia a réalisé une expérimentation sur l'effet des couverts sur les cultures suivantes, dans différents types de sols et sur diverses cultures. Un point tout d'abord sur la méthodologie utilisée. Dans des soucis d'aspect pratique, les couverts sont implantés en bande, vous les visualisez sur la présentation, là au travers de la photo, sur des demi-largeurs de pulvérisateurs. Des mesures sont réalisées en interculture, mesures de biomasse, mesures d'azote absorbé et reliquats entrée et sortie hiver. La destruction des couverts est mécanique, en général vers la mi-novembre, et sont ensuite installées des courbes de réponse à l'azote sur les cultures suivantes, les essais étant mis en place sur chaque bande et réalisés en micro-parcelles sur 3 répétitions. Alors, examinons dans un premier temps les mesures effectuées en interculture. Alors, la première synthèse concerne plus particulièrement 3 essais mis en place en terre de craie sur 3 années successives, 2009, 2010 et 2011. Donc, vous le voyez sur la présentation, les 3 modalités de couvert testées sont la moutarde à 7 kg hectare, l'association moutarde Vess, 3,5 kg pour la moutarde, 20 kg pour la Vess, l'équilibre 50-50, et la Vess pure à 40 kg hectare. Comme vous le voyez sur la présentation, le développement des couverts, mesuré par la quantité de matière sèche produite, est variable selon les années en lien avec le climat. Cette variabilité est plus particulièrement marquée pour la Vess. En moyenne, les chiffres que vous avez dans la petite encadrée bleue, les valeurs absorbées par les parties aériennes, on est bien sur les parties aériennes, sont des choses qu'on connaît, hein, c'est important de le resituer, sont deux fois plus élevés pour la veste, pour la légumineuse, que pour la moutarde. L'association moutarde-veste se positionnant en intermédiaire. Autre élément de mesure en interculture, les reliquats azotés. Des mesures sont réalisées à deux périodes, je vous l'ai dit, en novembre, lors de la destruction des couverts, et puis en février, avant l'installation des cultures de printemps. Sur la partie mesures réalisées en novembre, globalement, on constate un bon effet piégeage de la moutarde seule ou en mélange, hein, au travers des valeurs de reliquats azotés, la veste se positionnant plutôt en intermédiaire entre moutarde et déchaumage. Les mesures de reliquats effectuées en février avant l'implantation des cultures suivantes sont assez proches de celles réalisées en novembre, hormis sur la modalité de chômage qui est un petit peu en retrait, dans laquelle on observe un petit peu de lessivage. Voyons maintenant les résultats obtenus sur les cultures suivantes, et on démarrera dans un premier temps par l'orge printemps en terre de craie. Alors, juste une photo, ce ne sont pas des résultats d'essai, mais ça pourrait quasiment l'être, et la présentation vous en sera faite juste derrière. C'est une photo qui a été prise en juin 2009, qui illustre l'état de développement de l'orge printemps, témoin zéro sans azote, selon la modalité de gestion de l'interculture. Donc vous avez tout en haut à gauche déchaumage, puis moutarde, moutarde veste et veste. Et on voit bien tout de suite, dans ces témoins sans azote, l'effet très marqué de l'interculture, en particulier quand on introduit des légumineuses dans l'interculture. On a été d'autant plus surpris cette première année d'expérimentation que les couverts, enfin en l'occurrence la veste, avaient produit une biomasse relativement limitée, hein, 600 kHa, c'est relativement faible. Et on a été très très surpris de l'état de développement de l'orge de printemps qui a suivi. Donc ça, c'est la première année d'expérimentation. Deux années se sont suivies et je vous présente maintenant la synthèse des trois années d'expérimentation sur orge de printemps. Donc le principe de présentation est très simple, hein, tout en bas des doses d'azote par pas de 50, des niveaux de rendement en quintaux hectares et des courbes de réponse. Donc la synthèse de ces trois années d'expérimentation montre un net effet découvert comparativement à la modalité d'échaumage qui nous a servi de base de comparaison. L'effet VES est en particulier très marqué avec un déplafonnement des rendements significatifs. En moyenne, toutes doses d'azote confondues, les gains de rendement sont 3 quintaux pour la moutarde comparativement à la modalité d'échaumage, 6 quintaux pour l'association moutarde-VES et 13 quintaux pour la VES pure. Élément important qui vous est présenté également, on est sur orge de printemps, un critère déterminant en orge de printemps, c'est la teneur en protéines, hein, puisque l'orge de printemps est une destination brassicole dans ce cas-là. Ce qui est intéressant de constater là, c'est que globalement, l'effet VES, qui est très marqué sur le rendement, sur la teneur en protéines, se traduit par un effet, effectivement, mais qui est relativement limité, de l'ordre de 0,2 points en moyenne, toute dose d'azote confondue. Alors il est probable que le phénomène de dilution ait joué avec un niveau de rendement supérieur également. Alors, une autre lecture des courbes de réponse à l'azote est possible. Elle est matérialisée ici par un trait rouge qui positionne les rendements à 75 quintaux. On pourrait considérer que pour un objectif de rendement de 75 quintaux, les doses optimales d'azote selon la gestion d'interculture seraient de 160 unités pour la moutarde, 20 unités de moins environ pour la 160 unités pour la modalité d'échaumage, 20 unités de moins environ pour la moutarde, c'est-à-dire 140 unités, 120-125 pour l'association moutarde-VES et 75-80 unités pour la VES pure. Alors vous pouvez remarquer en même temps, je suis passé assez vite, le niveau de rendement du témoin sans azote qui correspond assez bien à la photo qu'on a vue tout à l'heure sur la modalité VES, puisqu'on est à 70 quintaux, ce qui est relativement élevé. Après cette première série d'essais sur orge de printemps en terre de craie, examinons maintenant les résultats obtenus en limon argileux, sur orge de printemps également, mais aussi sur maïs. Alors, pour cette expérimentation, seulement 3 doses d'azote ont fait l'objet de tests, 0, 100 et 200 unités, tels que ça vous est présenté ici. Deux essais ont été réalisés, je me suis permis d'en faire une moyenne, ils allaient tous les deux dans le même sens. Deux essais ont été réalisés sur orge de printemps en limon argileux. Et là, on ne visualise pas d'effet bénéfique découvert, hormis pour la modalité VES sans azote, qui se positionne un petit peu en avant comparativement aux autres modalités. La synthèse des quatre essais maïs en limon argileux sur les années 2010, 2011 et 2012 suit la logique de ce qui vous a été présenté auparavant sur orge de printemps en terre de craie, avec des résultats obtenus après couvert qui sont systématiquement supérieurs à ceux mesurés pour la modalité d'échaumage. On retrouve aussi là un déplafonnement des rendements marqué et on retrouve également l'effet verse qui est particulièrement important. En moyenne également, toutes doses d'azote confondues, les gains de rendement sont 7 quintaux pour la moutarde et l'association moutarde-vest, niveau de résultat similaire pour les deux modalités, et ils sont du double de 14 quintaux pour la modalité vest pure. Une analyse économique de cette expérimentation est ensuite faite pour mesurer l'effet découvert sur les cultures suivantes, en prenant en compte d'une part les coûts d'implantation, les coûts de semences et de destruction des couverts, et d'autre part les gains de rendement des espèces sur lesquelles l'expérimentation est réalisée, avec un niveau de prix pour l'orge et le maïs positionné pour l'étude à 150 euros tonne. Comme vous pouvez le voir sur la présentation, les meilleurs résultats économiques sont obtenus avec la veste seule, voire en mélange, sachant bien évidemment que la pratique légumineuse solo est interdite pour l'instant dans le cadre de la directive nitrate. En conclusion, les résultats de cette expérimentation montrent assez régulièrement un déplafonnement des rendements, voire une possible réduction de la dose d'azote sur les cultures implantées après couvert, surtout en présence de légumineuses. Ceci se traduisant par une moindre dépendance vis-à-vis de la fertilisation minérale azotée et donc par un meilleur bilan énergétique. Cet effet souvent bénéfique, on l'a vu sur orge de printemps en craie et en maïs en limon argileux, est obtenu à condition d'avoir, en particulier pour les légumineuses, une implantation relativement précoce et relativement soignée. Ce sont deux éléments importants qui vont impacter sur la réussite du développement des couverts, sans compter bien sûr les conditions climatiques qui sont déterminantes à cette période de l'année. Si des interrogations subsistent chez les agriculteurs concernant en particulier la modalité d'implantation des couverts, l'utilité dans certains types de sols, l'effet sur le bilan hydrique, les problèmes éventuels de parasites, la gestion des adventices, qu'elles soient annuelles ou vivaces, et la modalité de destruction des couverts, on peut cependant considérer que l'implantation de couverts à base de légumineuses permet de transformer, comme le disent les agriculteurs, une contrainte réglementaire en atout économique. Je vous remercie de votre attention.
Merci d'avoir parfaitement respecté le temps. Voilà, ça va laisser d'autant plus de place pour les questions qui vont venir de la salle. N'hésitez pas à vous manifester. On est revenu sur le sujet des cultures intermédiaires et on a donné devant une place plus particulière aux légumineuses.
Merci. Jean-Marie Parmentier, service agronomique Rosier. Donc une question concernant l'implantation. L'implantation s'est fait sur chaume et puis labour ultérieur, ou bien labour et puis installation des cultures dérobées, où avez-vous un regard ou une expérience en matière de ces deux types d'implantation et de destruction?
Alors pour ce qui est de l'expérimentation que nous avons réalisée, les implantations se font moisson, déchaumage, implantation avec du matériel qui est utilisé pour semer semoir traditionnel. Broyage des couverts mi-novembre et labour, destruction des couverts par enfouissement en labour.
Vous n'avez jamais étudié, ou c'est peut-être une piste de travail, de labourer donc en été, tout de suite après la récolte, et puis le couvert, et puis ensuite de semer sur ce couvert détruit, soit par le gel, soit par artificiellement.
Alors, on ne l'a pas testé, certains agriculteurs pourraient le tenter. Et pour tout vous dire, c'est déjà très compliqué pour implanter des couverts l'été dans des conditions assez classiques. Moins vous travaillez le sol, moins vous desséchez, mieux c'est pour les couverts. Donc, quand vous commencez à sortir la charrue, même si c'est une possibilité qu'on peut envisager, Les agriculteurs ne sont pas prêts à utiliser ce type de pratique, tout au moins pour l'instant. Maintenant, c'est quelque chose qu'on peut éventuellement travailler. On a préféré rester dans le cadre habituel d'implantation des couverts, mais j'ai un peu insisté à un moment donné, et je pense que c'est hyper important. On ne réussit pas toujours les couverts. Il ne faut pas que la présentation soit hyper idyllique, et parfois ça ne réussit pas. Et pour mettre tous les facteurs de son côté, il faut avoir une bonne gestion de la paille après moisson, il faut implanter tôt, et il faut avoir des préparations qui soient hyper soignées. En particulier, dès qu'on travaille en mélange et avec des légumineuses. Semis très précoces, très bonnes conditions d'implantation. Problème que vous n'avez pas avec la moutarde. La moutarde, je veux dire, vous n'avez aucun problème pour implanter de la moutarde, quelle que soit la date, elle lèvera tout le temps.
Ok, logique, mais moi j'ai des références sur une zone beaucoup plus septentrionale, donc limite France-Belgique, et donc beaucoup plus humide. Et donc les conditions sont différentes.
D'accord.
D'autres questions ? Oui, là-bas, je crois. Tout là-bas. Voilà, le micro arrive.
Oui, bonjour, Adrien Blou du CERF France. Alors, si j'ai bien compris, l'essai sur orge, il y a eu 3 années de fait.
3 années de suite, voilà. En termes d'expé, oui.
En implantation en bonnes conditions, comme vous avez dit.
Plantation en bonnes conditions, on a essayé, okay. Mais comme vous l'avez vu, et c'est assez bien illustré par le développement des... Enfin, on peut revenir en arrière, mais par les biomasses en interculture. Vous avez vu, je pense, voilà. Prenez un couvert comme la moutarde. Quelles que soient les années, l'état de développement est relativement constant. On est proche de 2 tonnes de matière sèche. L'association moutarde-vesse, quelle que soit l'année, on est sur des... Alors, il peut y avoir un peu de variation, hein, mais ça oscille entre 1,5 tonnes et un peu plus de 2 tonnes. Et c'est pour ça que j'ai illustré tout à l'heure, la modalité vesse, vous pouvez avoir une forte variabilité. On est monté jusqu'à plus de 3 tonnes durant l'année 2011, et on était seulement 600 kilos l'année 2009. Justement, c'est ce qui nous a beaucoup surpris cette année 2009.
C'est un facteur climatique, alors, seulement ou
C'est quand vous êtes dans ce type de sol, en terre de craie, les légumineuses en été, ça pousse pas obligatoirement bien. Ça fait partie, des fois, des problématiques qu'on a, justement, pour développer ce type de technique dans ce type de sol. Parce que des agriculteurs essayent, s'ils ne maîtrisent pas parfaitement, si les conditions climatiques sont pas là, on peut avoir, avec des légumineuses, des états de développement qui sont pas toujours exceptionnels. On limite cette problématique-là en travaillant en association. Là, je n'ai pas trop développé, mais dès que vous allez travailler en mélange avec d'autres espèces, vous limitez un peu ce problème-là, quoi.
Ok, c'était pour avoir un éclaircissement. Merci.
Oui, je complète la question, puisque l'orge de printemps est une culture importante pour Vivacia, hein, 20% en usage malterie, donc une orge de qualité. Quelle est la recommandation développée par Vivacia, sachant que les légumineuses pures ne sont interdites couverts dans la directive nitrate, donc on ne peut les avoir qu'en association. Qu'est-ce que vous recommandez?
On ne leur dit pas autre chose que ce que dit la réglementation.
Oui, mais dans l'association, vous recommandez quelle...
Non, en fait, la recommandation est d'aller sur du 50-50 tel que l'annonce la réglementation. Maintenant, si on pouvait faire, mais pas tout seul, évoluer la réglementation vers un chargement plus marqué en légumineuses, je ne parle pas bien sûr de légumineuses solo, puisqu'on sait très bien que la légumineuse solo ne va pas piéger. Il faut avoir un bon piège, ça peut être de la moutarde, ça peut être du radis, ça peut être autre chose, mais il faut charger en légumineuses. Si vous avez peu de légumineuses, c'est un petit peu dommage, vous réduisez l'effet bénéfique qui est escompté.
Oui, une autre question là. Le micro arrive.
Oui, Jean-Pierre Cohen, Arvalis. C'est juste pour relever ce que tu viens de dire. Je veux pas te contredire, bien entendu, mais la légumineuse pure piège aussi de l'azote. Et piège, la légumineuse pure fait moins bien qu'un mélange et moins bien qu'une non-légumineuse pure, bien entendu, mais fait quand même bien mieux qu'un sol nu. Donc faut avoir ça en tête. Je dis pas ça pour toi, bien entendu, hein.
Oui.
Je sais que tu le sais. Mais faut avoir en tête dans le dossier technique sur l'opportunité de pouvoir introduire les légumineuses pures dans la réglementation. Il faut avoir en tête qu'une légumineuse pure, quand il y a du nitrate dans le sol, elle l'absorbe.
Non, mais effectivement, vous l'avez vu dans la présentation, mais il existe d'autres travaux qui sont réalisés et qui, comme tu l'as dit, militent pour la légumineuse. Ça piège. Ça piège pas aussi bien quand même que des couverts standards type moutarde ou radis. Maintenant, ça piège quand même. Et puis il y a d'autres travaux aussi qui sont faits, en l'occurrence, soit chez nous dans le cadre de la REP, soit via Arvalis, soit par d'autres, sur le débobinage des légumineuses dans le temps. Parce que fabriquer beaucoup d'azote, il faut arriver à la gérer derrière. Donc voilà, mais on espère bien effectivement que, dans des systèmes autonomes en azote par exemple, ça puisse se positionner par exemple.
Une dernière question ? Oui, devant. Voilà.
Merci. Christian Dersigny de la Chambre d'agriculture de l'Oise. Si je peux me permettre deux questions. Est-ce que vous prévoyez d'étudier aussi les effets à long terme ? À l'échelle de la rotation. Et puis l'autre, c'est pour savoir, l'orge de printemps, c'est une culture sur laquelle on aime bien maîtriser l'alimentation azotée pour des questions de qualité. Là, on introduit un facteur de variation, surtout lorsque le couvert se développe plus ou moins d'une année sur l'autre. Comment est-ce que vous le gérez, quoi, ce facteur ?
Donc là, effectivement, on est. Alors la première question, j'ai oublié, excusez-moi.
L'effet à long terme.
Oui, alors l'effet à long terme, on l'a pas mesuré. Nous, par contre, sur un site champenois qui est dans le cadre d'association régionale gérée par Arvalis, on a un effet sur Tibi, site que vous devez connaître, là, les effets à terme. Alors plutôt de couverts assez standards, et puis dans les dernières années de couverts avec légumineuses. Mais on n'a pas en pluriannuel, de référence comme ça. C'est pour ça que ça nous a vraiment surpris dès la première année, sur plusieurs années d'expérimentation, mais c'est pas un effet cumulatif d'avoir des effets aussi marqués. Donc effectivement, on ne l'a pas fait, mais c'est quelque chose qui fait partie du travail qu'on a prévu de démarrer l'année prochaine, et peut-être de positionner ça aussi dans des systèmes de culture avec des introductions de légumineuses, pourquoi pas dans la culture principale, qu'on laisserait en place. Enfin voilà, il y a plein de choses à imaginer autour de ça. Puis dans le coup, j'ai oublié la deuxième question, excusez-moi. Ouais,
c'est sur la maîtrise de la fertilisation.
Ouais, voilà. Donc, alors ce qui nous a intéressé en particulier, dans les deux types de sols, pour l'orge de printemps, où là on a toujours le risque protéine et la crainte du déclassement, si ça se passe vraiment mal. Ce qui nous a vraiment, vraiment surpris et hyper intéressé, c'est que finalement, avec la légumineuse solo, on s'attendait à avoir des teneurs en protéines vraiment très très élevées, qui rendent la technique un peu rédhibitoire. Et en fait, on a des niveaux de teneur en protéines qui sont finalement pas très élevés. Alors en Champagne, on est aussi sur des niveaux de teneur en protéines en orge qui sont globalement pas très très conséquents non plus, sur la partie craie. C'est un petit peu plus difficile à gérer en limon argileux, effectivement.
Très bien. D'autres questions ?
Tiens, là-bas.
Non ? Oui ? Ah, je ne voyais pas. Vas-y, Marc. Question courte, si possible.
Bonjour, ça va être juste un complément d'information. Pascal Thiébaud, donc de l'INRA de Reims. Donc j'ai travaillé avec la coopérative nourriciale de 2009 à 2012. Donc j'ai pu effectivement voir un peu les cultures intermédiaires qui ont été mises en place par les agriculteurs, notamment dans le cadre d'un système d'agriculture dit de conservation. Je voulais juste apporter l'information par rapport à la légumineuse cultivée en solo. En règle générale, ce qu'on voit, c'est que les agriculteurs mettent ce type de culture derrière une céréale, et quand on lève et qu'on vient dans la parcelle, on n'a jamais une culture solo. On a toujours des repousses de céréales aussi abondantes que la légumineuse. Donc en fait, il ne faut pas forcément avoir peur d'une culture de légumineuse en solo, entre guillemets. Quoi.
Alors vous avez raison, sachant qu'en règle générale, quand c'est derrière une paille, ce qui va dominer, c'est une repousse de céréales, qui ont un effet piégeage, qui n'est pas inintéressant, mais qui est quand même moins intéressant que du radis ou de la moutarde, qui est l'objectif de base du piège à nitrate au départ. Mais vous avez raison d'insister qu'on a rarement la légumineuse solo en place dans l'interculture.
Bien, merci. Ben, je pense qu'on a fait un grand tour des questions. Je vais remercier Philippe pour cette présentation.